Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans Tech & Co. Deux heures de tech, vous le savez, on est là chaque soir, 20h, 22h, du lundi au jeudi, à la radio, à la télé et bien évidemment, nous sommes en direct. Et vous vous dites, vous vous posez cette question, qu'est-ce qu'on va retrouver au menu de Tech & Co ce soir? Eh bien, plein de bonnes choses, et notamment Aircall, que vous connaissez peut-être, c'est une licorne et c'est aussi depuis peu un centaure. Vous vous dites, mais Kezako, on va tout vous expliquer dans quelques instants. Et puis on parlera d'externalisation du service client avec une pépite qui s'appelle OnePilot qui vient de lever 15 millions d'euros. Nous recevrons le fondateur de OnePilot tout à l'heure. Et puis en deuxième partie de Tech & Co, ce sera un débrief mobilité douce. Eh bien oui, c'est la période où l'on peut vraiment, cheveux au vent, eh bien faire du vélo. Vous verrez, il y a pas mal d'innovations dans ce domaine avec des vélos connectés électriques et puis aussi un service de location de vélos et de partage qui vient d'arriver sur Paris. Je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver cette émission sur la chaîne Tech & Co. Dorénavant, tous les soirs à partir de 22h, la chaîne Tech & Co, votre nouvel univers dédié à toute la tech que vous pouvez retrouver sur toutes les box opérateurs. Une vraie chaîne 24h sur 24, chez Orange, chez SFR, chez Bouygues et chez Free. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
L'actu tech de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François.
Très heureux de te retrouver. Frédéric, journaliste bien sûr à BFM Business, qui a récolté, qui a fait sa moisson d'actu tech en ce mardi. Et on va commencer par Arm, vous le savez, ce géant en fait des processeurs hein, qui eh bien se projette maintenant vers l'avenir du fait que Nvidia a annulé le rachat de Arm, c'était
oui,
il y a quelques semaines.
Et on l'a entendu, donc Mayash Osisson, qui est le patron de SoftBank, l'un des principaux actionnaires d'Arm, et puis le patron René Hayes aussi de Arm, bah, qui commence à regarder le futur maintenant, parce que le rachat par Nvidia a été avorté. Et puis première chose, et eh bien un peu en contre en réaction par rapport aux autorités britanniques qui ont un peu bloqué ce rachat, et eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se dire, malgré le siège social de Arm qui est à Cambridge au Royaume-Uni, eh bien Arm va rentrer en bourse, mais sans doute pas en Angleterre. Non, il est en train de viser la bourse américaine à New York et sans doute le Nasdaq. Alors il l'avait dit, hein, Mayash Osisson l'avait dit, n'avait laissé aucune ambiguïté sur ses projets à l'époque. Mm-hmm. Déjà, il avait dit, les États-Unis c'est notre marché phare, et c'est pour ça qu'on vise l'introduction en bourse là-bas. Voilà, et la plupart de nos clients sont dans la Silicon Valley, tous les marchés boursiers aux États-Unis c'est là qu'est la tech, donc nous on va aller à fond là-bas. Mais voilà, SoftBank a mis la main sur Arm, et bien Arm était une grosse valeur au niveau britannique, et puis là et bien c'est en train de bousculer. Et puis faut quand même voir que le Financial Times a eu des infos comme quoi le gouvernement britannique songeait à jouer la carte de la sécurité nationale pour empêcher Arm d'aller aux États-Unis, notamment en bourse. Néanmoins, ce que disent des experts, c'est que les décisionnaires seraient divisés sur le pouvoir que lui octroie le National Security Investment Act. Ouais. Si SoftBank ne pouvait se retourner contre lui. Voilà, parce qu'il faut quand même savoir que les licences d'Arm, c'est 95% des smartphones. Et puis Arm, du coup, ils ont présenté aussi leur plan d'expansion. Il veut utiliser le produit de son introduction pour embaucher davantage d'ingénieurs, réaliser des acquisitions.
Se tourner aussi vers le jeu mobile, j'ai vu.
Le jeu mobile, étendre ses acquisitions vers le téléphone mobile, vers les voitures, les centres de données, le métaverse, évidemment. Donc Arm est parti, c'est assez drôle de dire un rachat avorté, et hop, on repart dans l'autre sens. Petite nouvelle
aussi. On va pas se faire souci pour Arm, je pense.
Non. Et il y en a un autre pour lequel on se fait pas de souci. Juste là, c'est tombé il y a à peine 5 minutes. C'est les actions de Qualcomm qui ont augmenté de plus de 5% à l'instant, parce qu'il y a un analyste qui a déclaré qu'il voyait Apple utiliser les modems 5G de Qualcomm dans les iPhones 2023. Et donc, ça veut dire qu'on en a encore pour 2-3 ans. Et du coup, Qualcomm, l'action a grimpé.
Rappelons que Apple veut petit à petit se désolidariser de Qualcomm et fabriquer ses propres puces, mais visiblement, fabriquer une puce 5G, ça prend plus de temps que prévu.
Donc voilà, pour Arm, un nouveau coup de boost, et pour Qualcomm, on continue quand même à bosser avec Apple.
Dans l'actualité aussi, eh bien, si vous êtes un utilisateur des VTC, que ce soit Uber ou Lyft ou d'autres, eh bien, peut-être allez-vous constater que de plus en plus de chauffeurs utilisent des Tesla.
Oui, et c'est ce que l'on voit notamment pour les chauffeurs. Alors, Uber a signé avec Tesla un accord, mais il y a plein de sociétés de location aussi. Hertz a signé avec Tesla, et on voit de plus en plus de chauffeurs. Alors, pour l'instant, c'est aux États-Unis, mais c'est en train. Ça va certainement arriver là. En cause, eh bien quoi ? C'est la hausse, la flambée des prix du pétrole. Hein. Et c'est tout simple. Hein. On voit, ils ont pris en exemple. Alors, c'est Bloomberg qui a fait ça dans une dépêche. Ils ont expliqué que quelqu'un voulait racheter une Toyota. Finalement, il se dit tiens, je vais prendre un modèle 3. Et puis, bien lui en a pris, puisque là où le plein de la Toyota c'était $60, eh bien c'est monté à plus de $100. Et quand il compare par rapport à la location, achat, longue durée, etc., qu'il a pris avec cette Tesla pour faire du VTC, hein, je rappelle, c'est pas encore de l'individuel, eh bien, pour $350, il a l'assurance, l'entretien de base, kilomètres illimités, et ça lui revient beaucoup moins cher qu'une voiture électrique, même électrique, enfin, qu'une voiture thermique, et même qu'une voiture électrique d'autres marques. Donc, voilà, on voit ce nouveau manège qui est en train de s'instaurer. On voit des chauffeurs Uber, on voit des chauffeurs Lyft aussi, qui sont en train de se tourner vers Tesla. Donc voilà, tout le monde regarde assez allègrement et avec bienveillance les Tesla aujourd'hui avec ce marché. Et peut-être que Tesla va finalement arriver, parce que on sait que quelque part, le but de Tesla, c'est aussi aller vers tous ces chauffeurs, mettre de la conduite autonome, et puis voilà. Et Uber et Tesla, eh bien là, s'ils se rejoignent sur cet effet-là, ça va finir par arriver sur ce modèle-là.
Bien sûr, ça apporte un confort supplémentaire.
Plutôt pour les dans les grandes villes américaines et moins dans les cités un peu tortueuses de notre pays.
Voilà, revenons à la sombre réalité, ce conflit, bien sûr, Russie-Ukraine, avec une cyberattaque de très grande importance menée par la Russie vers la Lituanie.
Oui, la Lituanie qui a déclaré avoir été la cible d'une cyberattaque intensive, dont il dit, alors c'est par déni de service, hein, DDoS, donc le principe c'est on envoie des requêtes, et on bloque un maximum de sites de l'administration lituanienne. Et alors ça, vous savez, en ce moment, il y a une enclave russe de Kaliningrad là qui est bloquée, et on doit passer par la Lituanie pour y arriver entre la Russie et la Lituanie. Et donc comme la Lituanie veut bloquer ce tunnel, ce passage entre cette enclave
russe
et la Russie, ben la vengeance russe, ce ne sont pas des missiles ou des obus, ce sont une cyberattaque. Alors l'attaque a été revendiquée par Killnet, qui est un groupe de pirates russes, mais les autorités lituaniennes ont dit que le plus gros des dommages avait été évité, parce qu'évidemment les Lituaniens, c'est pas des manchots non plus en termes de cybermenaces, donc ils savent aussi se défendre. Mais voilà, il y a quand même eu quelques dégâts, mais on voit vraiment il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. C'est que les Russes ont repris, on l'a vu au niveau militaire, malheureusement de façon tragique, ils ont repris un peu la main dans le conflit. Et bien c'est un peu la même chose en cybersécurité, ils sont en train d'être un peu plus menaçants, et on les voit beaucoup plus.
Voilà, on voit d'ailleurs à l'antenne, si vous êtes avec nous à la télé, des vidéos une vidéo de la revendication de ce groupe qui circule sur Internet.
Et c'est Jonas Skarindas qui est le patron du Centre National de Cybersécurité qui a confirmé que ça venait bien de Russie pour toutes ces attaques.
Voilà, pour terminer, notre petit dessert du jour. Bon, ça fait un moment qu'on mange ce dessert-là quand même. Hein. C'est l'épisode Elon Musk Twitter. Quoi de neuf aujourd'hui concernant cette histoire?
Elon Musk voulait les vraies data de Twitter. Il les a avant de pouvoir débourser ses 44 milliards. Donc on s'est dit, ça y est, il a toutes les données, il va pouvoir finaliser ses actions. Il a les faux comptes, il a a priori des données sur le trafic, il a tout ça. Mais voilà, on se rend compte qu'en termes juridiques, bien avoir accès à ces data, ça ne dit pas si beaucoup de robots, en nombre de requêtes, si ce n'est pas des robots qui font un peu le trafic de Twitter. Et là, il a beaucoup de mal. Et là, enfin, tous les experts disent que oui, il peut récupérer le nombre de faux comptes, il peut récupérer un peu les chiffres de trafic de Twitter, mais il aura bien du mal à savoir quel est le trafic généré par des robots contre le trafic ou par des spams contre le trafic généré par nous tous, enfin, par tous ceux qui vont tweeter. Et là, on sent qu'il y a encore un nœud à démêler, mais celui-ci, selon tous les experts, autant le nombre de faux comptes, tout ça, le nombre de faux comptes, le trafic, ça on peut le gérer, autant là, les robots, les spams, ça commence à être un peu plus compliqué. Et en attendant, l'offre de 44 milliards, elle tourne toujours, et c'est pas encore signé.
Oui, le compromis n'est pas signé.
Ça va faire deux mois. C'est vrai. Ça fait un moment.
Merci beaucoup, Fred. Fred, je sais que tu es un adepte des nouvelles technologies. J'imagine que tu as pris en main le dernier smartphone de Samsung, tu sais, de ce
fameux. Le Galaxy.
Le Galaxy Z Fold 3, le téléphone qui s'ouvre à l'horizontale et qui permet d'avoir, en fait, qui transforme ton smartphone en vraie tablette pour regarder des films, pour travailler, etc. C'est un très beau téléphone qui est sorti à la rentrée dernière, qui est bien évidemment 5G, qui est compatible avec le stylet Samsung. Donc, vous pouvez manipuler des dessins, transformer des documents, etc. Un très beau téléphone, donc un smartphone pliable Samsung que nous vous offrons durant toute cette semaine dans Tech & Co. C'est une première, hein, comme je disais hier, c'est la première fois qu'on vous offre un cadeau. Et dans Tech & Co, vous offrir un smartphone haut de gamme signé Samsung, ça nous paraît pertinent. Pour jouer, c'est simple, on joue exclusivement par SMS et vous nous envoyez dès maintenant le mot Tech, T-E-C-H, par SMS au 7-32-16. Ce sont des SMS surtaxés, bien sûr. Et si vous êtes tiré au sort, ce sera le 4 juillet d'ailleurs, le tirage au sort, eh bien, peut-être qu'on vous enverra avec beaucoup de plaisir ce smartphone qui est superbe d'ailleurs. Bonne chance, Tech par SMS au 7-32-16. On revient dans un instant, vous le savez, Tech & Co. On est là chaque soir en direct, 20h, 22h sur BFM. A tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Nous voilà de retour, Tech & Co, chaque soir, 20h, 22h, on est en direct à la radio, à la télé. Merci d'être là, et de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous retrouver chaque soir, pour tous les fans de tech et tous les autres aussi. Je vous présente mon premier invité, Jonathan Anguelov est là. Bonsoir Jonathan.
Bonjour François.
Co-fondateur d'Aircall. Tout vous sourit en ce moment, chez Aircall.
Je sais pas si tout nous sourit, mais...
Mais c'est pas mal quand même.
Il y a encore beaucoup à faire.
Il y a quand même pas mal de choses. Bon, alors vous êtes une pépite française qui cartonne dans la voix sur IP. Vous allez nous expliquer ce que vous faites. Mais vous êtes là ce soir, non pas pour nous annoncer que vous êtes une licorne, parce que ça, on sait depuis très longtemps, mais parce que vous êtes un centaure. Et ça, c'est la grosse nouveauté. On se croirait dans un dessin animé avec tous ces animaux imaginaires. Mais c'est du concret. On va revenir sur tous ces qualificatifs. Mais déjà, nous expliquer ce qu'est Aircall et pourquoi vous cartonnez. Jonathan.
En quelques mots, Aircall, c'est de la téléphonie d'entreprise, donc on permet aux sociétés, où qu'elles soient dans le monde, de mettre en place l'intégralité de leur système téléphonique sans besoin d'aucun poste. Tout se fait dans le cloud et l'ensemble des outils s'intègrent aux outils que les entreprises utilisent déjà. Donc la téléphonie va être connectée au CRM du client, va être connectée à l'outil de service client du client, donc le helpdesk. On va avoir des remontées de fiches, les enregistrements d'appels vont être poussés automatiquement dans les...
Retranscriptions aussi écrites.
Retranscriptions vont être poussées, on peut faire des recherches sur les transcripts. Donc ça permet aux équipes d'être beaucoup plus efficientes, notamment les services clients, les services commerciaux.
Donc, vous êtes aussi une figure du Next 40 et donc licorne. La nouveauté, donc, c'est que vous êtes dorénavant centaure et vous êtes... C'est rare, en fait. Hein. Je crois qu'il n'y a que 150 boîtes dans le monde qui sont centaures aujourd'hui.
Oui, en fait, on a beaucoup communiqué sur les licornes ces dernières années et assez peu sur les centaures. Donc récemment, Bessemer, qui est un investisseur mondial, en a parlé pour la première fois dans un article qui était assez intéressant. Et c'est vrai que donc le centaure, qu'est-ce que c'est? C'est les 100 millions d'ARR. Et c'est vrai que pour ARR, annual
donc,
recurring
revenue... revenu annuel récurrent,
c'est ça. Et en fait, pour un outil business B2B, c'est... un vrai passage à l'état, on va dire, un peu plus mature, vu que ça prouve qu'on a atteint cette taille de chiffre d'affaires et donc on a convaincu suffisamment de clients pour aller à ce niveau-là.
Oui, parce que c'est ça qui est fort. Bon, la licorne, c'est une vraie prouesse.
Voilà,
on est d'accord.
Mais c'est des valorisations.
C'est des valorisations qui peuvent disparaître, pas du jour au lendemain, mais qui
peuvent s'effondrer. Mais non,
On le voit actuellement. Vous, c'est du concret, c'est réaliste. Vous faites du business avec des chiffres donc élevés, ce revenu annuel récurrent, donc qui, rappelons-le, doit dépasser les 100 millions.
Plus de 100 millions, et cela, on l'a fait en moins de 8 ans. Si on regarde la plupart des benchmarks, on regarde de 1 million à 100 millions, en combien de temps ça se fait. Les super boîtes le font entre 8 et 10 ans, et nous, on l'aura fait en 6 ans, du coup.
D'accord. Comment vous expliquez cette réussite humblement, à votre avis? Vous êtes arrivé au bon moment avec le bon outil.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, il y a beaucoup de ça. La téléphonie d'entreprise n'avait pas évolué depuis pas mal d'années, depuis les années 2000.
Oui, parce que la voix sur IP, ça existe depuis 20 ans.
Début des années 2000, la voix sur IP apparaît avec le poste physique. Pendant beaucoup d'années, en fait, voix sur IP rimait quand même avec poste téléphonique. Et on est arrivé à un moment où on a dit, il faut tout dématérialiser. Donc, c'est l'avènement un peu du SaaS, donc Software as a Service. Et donc, dématérialiser le téléphone en 2013-2014 était révolutionnaire et donc on est rentré un petit peu dans cette brèche. On a construit AirCall avec cette vision. Également, vu que tous les SaaS commençaient à apparaître, on a dit pour faire un outil téléphonique intelligent et qui apporte plus de valeur que les outils classiques, on va l'intégrer en plus à tous les outils métiers que les entreprises utilisent déjà. Et donc le go-to-market était très était bon vu qu'on allait dans le sens que le marché attendait. Et donc les années ont passé et on a pu croître de manière assez exponentielle.
Aujourd'hui, vous êtes partout dans le monde ?
Partout dans le monde. Alors, on est présent, on a des clients dans un peu plus de 60 pays. Mm-hmm. On a 8 bureaux dans le monde, avec 85% du chiffre d'affaires d'AirCall qui se fait hors France.
Est-ce que vous considérez toujours comme français ?
Bien sûr. Et on en est très fiers. Et justement, on communique énormément dessus, même si très tôt, on allait aux États-Unis et aujourd'hui, plus de 30% de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis. Mm-hmm. Mais on se considère français parce que c'est là où on est né, c'est là où on a grandi et c'est là où il y a le plus grand bureau. Aujourd'hui, on emploie plus de 400 personnes en France et dont 350 à Paris. Donc, ça reste quand même le cœur névralgique d'AirCall.
D'accord.
Et il le restera au fil des années. Les bureaux qu'on ouvre sont des bureaux essentiellement commerciaux, vu que la R&D est en France également. Donc, les ingénieurs français sont reconnus pour leur...
Donc, c'est l'excellence française de votre savoir-faire qui rayonne à l'international.
Exporté.
Mais la source est toujours en France.
La source est toujours en France et elle le restera. Les autres pays sont vraiment, ont un objectif vraiment de...
D'accord.
D'expansion.
Très bien. C'est une bonne nouvelle. On évoque, alors, qui dit ce sujet, on doit évoquer la souveraineté. Ça a un sens, ce que vous faites en matière de souveraineté, à votre avis ?
Alors, je n'ai pas envie d'exagérer la chose, mais en tout cas, je trouve que d'un point de vue... de faire briller la France de telle manière à l'international, c'est important.
C'est en quelque sorte une certaine souveraineté.
C'est une sorte de souveraineté. C'est de dire, en fait, aujourd'hui, pendant des années, la France à utiliser des outils américains. Et encore aujourd'hui, on utilise des téléphones américains, des outils américains. On ne va pas citer les noms. Avoir des premiers Français qui vont proposer des solutions françaises, mais à l'international et qui s'exportent très bien, est une forme de souveraineté. Et on espère un jour devenir un vrai leader français à l'international dans la téléphonie d'entreprise.
Introduction en bourse, vous y pensez, vous y réfléchissez ?
Oui, on y travaille. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de communiquer sur les 100 millions d'ARR. Historiquement,
vous préparez le terrain ?
Non, mais
avec tous ces bons chiffres.
Vous le savez mieux que moi. Historiquement, les startups ne communiquent pas sur leurs chiffres pour diverses raisons. Et nous, on s'est dit, en fait, il est temps de communiquer sur nos chiffres. Un, on doit en être fiers parce que c'est un chiffre d'affaires qui est élevé et qui va continuer à évoluer puisqu'on fait 70 à 75% de croissance année après année. Et en plus, ça nous prépare au public, au regard du public, parce que c'est pas évident. Et maintenant, on va devoir reporter et les gens vont nous demander, alors, avez-vous fait votre chiffre d'affaires ?
Voilà. C'est vrai que vous communiquez tous les jours à vos employés le chiffre d'affaires
tous
de
les
la
matins.
Boîte ?
Tous les matins, on a un bot qui pousse sur notre outil de chat le chiffre d'affaires en direct. Et comme ça, tout le monde est au courant.
Et alors, ça réagit comment ?
Bah, après 8 ans, en tout cas, on se rend compte qu'on a réussi à préserver un secret. Alors qu'on est près de 800 personnes, on a réussi à préserver le secret de notre chiffre d'affaires. Se dit, on est 800, maintenant on peut communiquer. Et en tout cas, ce que les gens apprécient, c'est la transparence qu'on leur offre. Et surtout, le concret de chaque personne travaille pour un chiffre d'affaires très précis.
Et à noter donc ce fameux qualificatif de Centaure qui donc équivaut à dépasser 100 millions d'euros. Ces 100 millions d'euros, vous les dépassez alors que on n'est même pas à la moitié de l'année puisque ce chiffre-là, vous l'avez eu.
C'est ça.
Voilà, je crois que vous prévoyez quoi, 135, 140 millions d'ici la fin de l'année, c'est ça ?
Un peu plus de 130 millions à la fin de l'année.
D'accord. Très bien. Ben merci d'être passé par le plateau de Tech & Co.
Merci François.
Prochaine étape, donc l'introduction en bourse et vous serez le bienvenu, Jonathan, pour nous expliquer tout ça.
Merci François, bonne journée.
Est-ce que vous vous intéressez au métavers ?
Ah bah oui, évidemment.
Tiens,
je crois qu'on
d'ailleurs
a un super invité.
Ouais, voilà, on parle, quelle belle transition, franchement. Tiens, juste, tout à l'heure, je recevais quelqu'un que vous connaissez sans doute, c'est Pierre Latcha, qui est le cofondateur de OnePilot, qui se connecte d'ailleurs à votre service.
Ouais, il s'est beaucoup parlé. Voilà. Et il nous utilise d'ailleurs.
Il vous utilise,
pour
justement.
Pour centre d'appel.
Voilà, il sera avec nous tout à l'heure. Bonsoir Alain Garnier.
Bonsoir.
C'est vous la star aussi avec donc Jonathan, puisque alors vous carrément, vous lancez le premier métavers d'entreprise avec donc Jamespot. C'est tout frais, hein, vous testez ça depuis quelques semaines, je crois.
Aujourd'hui. Mais oui, on l'a gardé pour Tech & Co.
Ça, voilà. C'est bien, ça. J'adore quand, que pour mon émission, on lance des nouveautés.
On l'a présenté aux clients jeudi dernier.
Alors, expliquez-nous, parce que le métavers, on le mange à toutes les sauces, là. Parfois, c'est un peu indigeste, je peux vous le dire, hein, pour en parler au quotidien. Comment imaginez-vous, vous, ce métavers d'entreprise ?
Alors déjà, faut voir pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette aventure. Jamespot, nous, on fait ce qu'on appelle les digital workplace. En fait, c'est là où les gens travaillent ensemble. Réseau social d'entreprise, intranet, on a parlé de chat, échange de documents. Bon. Et puis là, on a tous vécu le Covid, le télétravail vraiment qui est maintenant devenu une réalité permanente pour plein de boîtes. Et en fait, on voit que les gens perdent du lien. Où est-ce que sont les gens avec qui je travaille ? Ok, on fait des visios comme ça toutes les demi-heures, toutes les heures, mais du coup, on sent plus les équipes. Et donc, c'est là où on a, nous, en interne, pour Jamespot, on a construit un système où justement on s'est retrouvé avec nos avatars et on se voyait, on pouvait faire des visions en temps réel.
C'était votre outil interne au
oui,
départ.
Oui, c'est-à-dire que on l'a expérimenté pour nous, on sentait un truc et après on a regardé, on a dit mais vraiment c'est un truc qu'il faut étendre auprès de nos clients et de manière plus générale au public. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à travailler sur ce qu'on appelle un métavers, même si le terme effectivement il a été beaucoup galvaudé. Mais nous, notre métavers, j'ai envie de dire, il est à la fois très puissant mais aussi plus modeste que toutes les histoires qu'on nous raconte, qui d'ailleurs sont aujourd'hui pas des réalités d'usage. Nous, c'est un métavers 2D, c'est en deux dimensions. Ouais, ouais. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de surcoût sur les machines, sur les systèmes. Voilà, on a des avatars. Là, je ne sais pas si on voit des
oui,
des
on voit avatars. On voit des images en tout cas.
Et surtout, ce qui va se passer, c'est ça qui est important. Là, on est dans l'espace public extérieur. On a ensuite des bureaux. Et c'est dans les bureaux aussi qu'il se passe des choses. C'est que dans les bureaux, on va tout simplement aussi avoir des gens, quand ils se rapprochent, tac, il y a deux petites bulles qui apparaissent et ça fabrique une vision instantanée. Sans avoir besoin de dire « Hé, François, on se retrouve en visio. Oui, j'arrive. » Ou, par exemple, quand on est les uns à côté des autres, on va voir trois personnes qui bossent dans les bureaux. On dit « Ah, mais oui, il y a Paul et Christelle qui sont en train de bosser justement sur tel projet. Je le sais, je ne vais pas les déranger. » Ou au contraire, je passe juste une tête. « Tiens, au fait, on en est où ? Parce que moi, je vais sur Tech & Co. » Voilà. Donc, ça recrée du lien. Et c'est assez incroyable.
C'est étonnant parce que ça me fait penser, on a l'impression d'être, quand on voit les images, si vous êtes avec nous à la télé, d'avoir Animal Crossing. C'est des graphismes un peu à la Switch, quoi.
Oui, alors c'est
plutôt,
Alors là, on a aussi on a choisi un univers qui était à la fois très beau, justement très apaisant aussi, parce qu'on pense aussi qu'il y a beaucoup de stress aujourd'hui dans notre monde. Donc,
oui, qui sont pas réalistes justement. C'est-à-dire pas réaliste, vous prenez le parti de faire un truc qui ressemble à un jeu vidéo.
C'est ça. On est plus dans la métaphore. De la même façon que les interfaces graphiques, quand on regarde, bon, moi je dis souvent, nos systèmes sont déjà des métavers une dimension. Quand vous êtes dans un réseau social d'entreprise, vous avez des métaphores, vous avez des blocs, etc. Tout ça, c'est pas réel, mais on comprend ce qu'on doit faire. Ben, c'est pareil, on donne des métaphores. Et par exemple, là, il y a des bancs, ben, si les gens vont sur les bancs et que les gens se rapprochent, tac, il va y avoir les petites visios. Beaucoup de choses sont basées sur la communication et ensuite l'échange d'informations. Parce qu'après, on a aussi la possibilité de, parce qu'on est en monde professionnel, bon, on va passer en mode projet. Donc, je vais partager, par exemple, un tableau avec justement des petites cartes que je déplace. Ouais. Et donc, je vais pouvoir bosser dans ce mode dual dans lequel je suis effectivement dans le monde numérique. Mais dans le même temps, on est aussi en monde hybride parce qu'on peut être, il y en a qui sont au bureau, il y en a qui sont chez eux, il y en a qui vont dans l'espace de coworking. Et on arrive à recoller. Nous, par exemple, à Jamespot, par exemple, là, c'est, nous, on a la moitié des équipes qui sont à Annecy, à Castres, à Toulouse.
Ils se retrouvent dans ce même univers, tous ensemble.
Ils se retrouvent dans cet univers. Et d'ailleurs, on ne sait plus qui est où et c'est plus un problème. Alors que sinon, c'est toujours compliqué.
Alain, vous allez avoir quand même un peu de concurrence là. Et c'est pas n'importe qui. Microsoft qui travaille sur son Teams, en VR. Voilà.
Ouais.
Un certain Mark Zuckerberg qui investit des milliards et des milliards.
Qui a même d'ailleurs préempté le terme métaverse, je lui en veux beaucoup parce que c'est un magnifique terme.
Il faut
méta.
Lui dire.
Voilà, mais bon, c'est dit, voilà. Et oui, mais sauf que ça, c'est. Alors d'abord, la concurrence, c'est toujours ça. Hein, c'est aussi ça qui fait progresser l'humanité. Moi, j'ai pas peur de ça en tant que tel. Et deuxième chose, c'est que je pense qu'un peu comme dans l'IA, nos amis là que vous avez cités, ils ont placé l'action du métavers à un niveau peut-être qui aujourd'hui n'est pas accessible en termes d'usage.
Si on parlait des masques, des lunettes chez Microsoft avec HoloLens.
Nous, c'est pour ça qu'on est vraiment resté sur.
Là, on est en 2D. Tout ça fonctionne en fait sur un PC, une tablette, sur un smartphone.
Sur un smartphone, ça marche. Et donc, ça veut dire que. Et en plus, c'est synchronisé avec notre Jamespot traditionnel. Donc, quelqu'un qui a l'habitude des interfaces classiques web, il ne va pas être perdu dans ce monde-là parce qu'il peut aussi partir de là pour avoir des informations.
Juste un mot sur Jonathan. Vous êtes dans la voie sur IP, j'imagine que vous suivez tout ça parce que, mine de rien, vous êtes un canal de communication. communication qui pourrait très bien arriver sur le métavers, oui. De manière logique. Vous y croyez, vous, à tout ça? Sincèrement, hein, c'est pas parce que nous avons Alain en face.
Ce qui est sûr, c'est que le principe de gens qui ont besoin de se retrouver et qui ne sont pas aux mêmes endroits, c'est un vrai problème. Nous, aujourd'hui, on est 800 personnes, ouais, on a des gens en remote, ils ne se voient jamais. Donc, avoir un outil qui...
Une espèce de place de marché, comme
c'est ça,
un petit village.
Et bah, d'ailleurs, c'est marrant, parce que j'ai vu Village, nous, on a notre village dans notre bureau parisien, qui est l'endroit où on se rencontre. Et donc, je pense, c'est vrai, aux personnes qui ne sont pas au bureau, et qui se retrouvent à ne pas pouvoir se retrouver, à avoir une place de marché virtuelle où on se rencontre, on se promène à un moment.
Et après, il y a les bureaux. Donc, l'usage, c'est vraiment des bureaux, après, parce qu'il y a le fait de se promener, comme ce qu'on voit, mais il y a aussi la partie bureau qui est très importante, parce que c'est l'essentiel de l'usage. Et le fait, surtout, de pouvoir, justement, mieux organiser les choses dans la journée, d'avoir moins sentiment d'être avec des visios séparés. On retrouve du lien, ça, c'est très, très clair. On a l'effet, vous savez, la fameuse...
Mais on a vu le chat, là,
Évidemment, on a le chat, mais tout ça, là, on parle de GenSpot Land, cette partie-là, mais à côté, il y a GenSpot, réseau social, la partie chat, la partie intranet. Donc on a aussi tout le reste de notre workplace qui est là. Ce n'est pas que justement se promener dans les allées, parce qu'on a aussi toute l'autre partie de GenSpot qui est là.
Alain, bon, alors vous avez testé ça marche, ça sort quand?
Alors ça sort quand? Aujourd'hui, là, ça sort aujourd'hui. On l'a vraiment ouvert tout à l'heure. Pour venir, voilà.
Donc voilà, je suis une boîte, je peux lancer,
tester. C'est gratuit pour tester la partie publique, voilà. Ensuite, tous les clients de GenSpot, on en a plus de 350, on leur a donné justement un espace bureau gratuitement pour qu'ils l'essayent et pour qu'ils découvrent ce que c'est, parce que nous, on veut vraiment partager cette expérience avec laquelle on a vraiment eu... Ça a changé notre vie de remote, très clairement. Et puis ensuite, justement, les autres, ils vont justement sans doute venir demander des bureaux et on va leur offrir tout ça, parce que c'est un nouveau monde qui s'ouvre, un monde digital.
GenSpot, donc. Merci Alain, vous en parlez en tout cas avec beaucoup de conviction. Vous savez quoi, j'ai presque envie de quitter l'émission et d'aller
sur GenSpot.land.
Sur GenSpot.land, mais je ne peux pas le faire, il me reste encore une heure et demie. Merci à tous les deux, merci Jonathan.
Merci François.
Bravo pour AirCall et Alain, plein de bon vent, plein de bonnes choses pour GenSpot. 20h30 bientôt, vous restez là bien sûr, le journal. Et on repart, toute l'actu tech, 2 heures de tech chaque soir sur BFM Business et Tech & Co. De 20h à 22h, à tout de suite.
Tech & Co. Le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business dans quelques minutes. Sabrina Cagliozzi sera avec nous. Elle va nous parler d'une start-up californienne qui fabrique des glaces à base de plantes. Alors je sais que dit comme ça, ça donne pas trop envie, mais restez là, ça va vous intéresser. Dans l'immédiat, OnePilot est avec nous sur le plateau, représenté par son cofondateur, Pierre Latcha. Bonsoir Pierre.
Bonsoir François.
Merci d'être avec nous. Alors votre actualité brûlante, c'est votre levée de fonds de 15 millions. On va y revenir dans un instant, parce que c'est toujours une bonne nouvelle et il faut célébrer ça. Et vous allez nous expliquer ce que vous allez faire, enfin, quel va être le déclic par la suite. Mais peut-être revenir sur ce que vous faites. Vous êtes une plateforme qui, en fait, externalise le service client. Le service client qui, aujourd'hui, est capital stratégique, en fait, pour la plupart des sociétés qui font du service. On est d'accord?
C'est exactement ça. Donc notre mission chez OnePilot, c'est de permettre aux e-marchands, c'est-à-dire les acteurs qui vendent des produits et des services en ligne, d'apporter une réponse humaine, instantanée et à toute heure à leurs utilisateurs.
Donc, expliquez-nous, c'est un peu quand on arrive sur un site, parfois on a un petit pop-up qui apparaît, vous voulez discuter avec un représentant du site, avoir des infos, etc. Ça peut être vous, ça, ou pas?
C'est exactement ça. Donc on s'imagine pas rentrer dans une boutique physique sans vendeur. C'est exactement la même chose pour une boutique virtuelle. Donc rappelez-vous la dernière fois que vous avez interagi avec un site, que ce soit par mail, par téléphone, sur les réseaux sociaux, avant, pendant ou après avoir passé commande, il se trouve que vous avez créé un ticket de support client. Et il se trouve que rien que ces 24 dernières heures, en Europe, plus de 50 millions de tickets ont été créés. C'est donc un enjeu assez majeur pour les marques, à l'heure où on sait que 2 utilisateurs sur 3 sont prêts à passer chez un concurrent après une mauvaise expérience.
Oui, parce que si on rate le tournant de la relation client, c'est difficile après de reconquérir ses clients, on est d'accord?
C'est exactement ça.
Déception?
Ouais, c'est 9 fois plus dur d'acquérir un nouveau client.
Une histoire d'amour que d'en fidéliser, quoi, en quelque sorte.
C'est joliment dit, ouais, on peut dire ça.
C'est un peu ça. Mais alors, comment ça se passe en coulisses? Je suis devant mon site, j'ai ce pop-up, je commence à écrire une question, j'appuie sur envoi. Qui me répond? C'est un robot? C'est quelqu'un? Comment ça marche?
Alors, ce sont des humains qui sont basés en France, en Angleterre, en Espagne et en Allemagne pour l'instant. C'est l'objet de notre levée de fonds, justement. qui, grâce à notre plateforme métier, qui vise à les mettre dans les meilleures conditions pour répondre et traiter n'importe quel type de demande, quel que soit son niveau de complexité. Donc c'est l'association de ses agents et de notre plateforme qui leur permet de vous répondre si jamais vous avez un problème avec une commande ou une question auprès d'un site marchand.
C'est rigolo parce que vous êtes une boîte très tech, mais on se rend compte que l'humain est au cœur en fait de votre métier. Là.
Bah, je pense que l'humain est au cœur de la relation client et que on se doit d'apporter une réponse humaine.
Est-ce que ça veut dire que on revient un peu de tous ces chatbots dont on nous vantait les mérites il y a encore quelques mois ou quelques années ?
Je pense pas qu'on en revienne. Je pense que c'est important d'associer la tech et l'humain pour être capable d'apporter des réponses extrêmement qualitatives à des coûts extrêmement compétitifs. Du moins, c'est notre mission chez OnePilot. Et donc, assez schématiquement, que ce bot-là soit à la main de nos agents et pas de la personne en face de l'écran.
Mais alors, cet agent qui, vous l'avez dit, peut-être en France ou un peu partout en Europe, mm-hmm. on l'espère peut-être même un peu partout dans le monde,
on espère.
Il s'occupe quoi ? Il a été formé pour une seule marque ? Ou alors, il se retrouve avec, un Cdiscount, la Fnac, Vente Privée. Il s'occupe de ces trois-là et se fait passer en fait pour un représentant de chaque marque. Comment ça marche ?
C'est exactement ça. Donc évidemment l'expérience est indolore pour la personne qui est derrière l'écran. Et en fait c'est tout l'objet de notre plateforme d'être capable de transmettre la bonne info au bon moment à un bon agent qui est évidemment alloué à un nombre très restreint d'entreprises en fonction des volumes de tickets que l'on a à traiter.
Quel est l'intérêt pour une boîte, pour un site marchand d'externaliser son service client ? C'est moins cher.
Ouais.
Avant tout.
Ouais, c'est tout à fait ça. C'est extrêmement compliqué en interne d'apporter une expérience client qui soit exceptionnelle, c'est-à-dire une réponse rapide, efficace et à toute heure. Mm-hmm. De le faire avec des ressources internes, c'est très compliqué. Du moins, c'est ce qu'on a été confronté à ça par le passé avec mes associés. Et donc, c'est vraiment numéro un, augmenter les ventes de nos clients en ayant un impact direct sur leur taux de conversion et de rétention. Et numéro deux, c'est mettre les équipes internes de nos clients de support dans les meilleures conditions pour maximiser leur efficience et qu'ils puissent se concentrer sur les tâches à plus haute valeur ajoutée.
Vous avez été lancé il y a un an, c'est ça ?
Oui, c'est ça, 13 mois.
Voilà, finalement. 13 mois, plus de 150 entreprises ont déjà signé chez vous. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, la satisfaction des clients augmente de 20% en moyenne suite à votre solution. Donc, c'est du concret.
Tout à fait ça. On a un impact donc direct sur les ventes de nos clients. C'est évidemment apporter une bonne réponse au bon moment. Et donc, la personne en face soit satisfaite pour qu'elle passe commande et repasse commande dans le futur.
D'accord. Donc là, l'actu, c'est ces 15 millions d'euros. Qu'est-ce que vous allez en faire ?
Deux utilisations de ces...
Les Bahamas, c'est ce que vous me disiez pendant la pub.
Ouais,
c'est ça, il ne faut pas le dire. Hein. On plaisante.
On ne le dira pas à nos investisseurs.
Voilà.
Numéro un, c'est continuer nos efforts technologiques, doubler notre équipe tech pour maximiser l'efficience de nos agents d'un facteur de 40%, d'une part. Et puis d'autre part, c'est continuer notre expansion internationale pour être capable de proposer des réponses d'agents natifs de par le monde à des tarifs extrêmement compétitifs et à un niveau de qualité inégalé.
Expliquez-nous comment ça se passe en fait. Un agent qui est là 24 heures sur 24, qui attend les questions, il est à l'affût des questions des clients. Comment ça se passe ? Il a un outil à côté de lui qui va l'aider à bien répondre. Comment ça fonctionne ?
C'est exactement ça. Donc c'est vraiment l'objet de notre plateforme, c'est, pour être très schématique, souffler la bonne réponse au bon moment au bon agent qui est bien formé.
Mais il doit écrire, en fait. Comment ça se passe, en fait ?
Donc
comment ça marche ?
C'est tout à fait ça. Donc, mettons que ce soit une demande par mail, par exemple. Vous n'avez pas reçu votre commande, vous allez m'envoyer un mail que mon agent va recevoir grâce à ma plateforme.
Un mail ou un chat ?
Un mail, un chat, un coup de téléphone, un fax, ce que vous voulez.
Un fax aussi, waouh !
Fax, c'est un peu
vous
compliqué.
Vous êtes super moderne, quand même. Minitel, bientôt, ça va arriver.
Donc c'est vraiment de lui souffler la bonne info au bon moment avec le bon process métier à exécuter. Donc par exemple, vous réexpédiez votre commande depuis l'outil métier de notre client.
Très bien. Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer ? J'imagine que vous allez me dire oui. Mais quel est le point le plus complexe en fait de votre métier ? La formation de tous ces conseillers, améliorer cette interface justement qu'ils ont pour leur souffler les bonnes réponses.
C'est exactement ça. Je pense que chaque membre de l'équipe OnePilot traite 30 tickets par mois et c'est important qu'on le fasse parce que le métier d'agent de support client est extrêmement complexe. Il y a des demandes qui sont toujours plus exigeantes, toujours plus complexes. Et donc, c'est vraiment notre capacité à mettre nos agents dans les meilleures conditions, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a un si beau taux de rétention par rapport à l'état du marché, bah, pour sublimer leur expérience à eux et qu'ils fassent de même avec l'utilisateur de notre client.
Voilà l'actu donc, c'est ces 15 millions de levées de fonds pour One Pilot. Merci beaucoup Pierre Latchard.
Merci beaucoup.
Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co. Et tout de suite, direction New York, comme chaque soir, on retrouve Sabrina.
Tech & Co. What's up New York?
Bonsoir Sabrina Cagliozzi.
Bonsoir François.
Très heureux de te retrouver, bien sûr, comme chaque soir, Sabrina, d'autant que j'adore les glaces.
De même.
Ça va être sympa. Tu vas nous parler de cette start-up californienne Eclipse Food.
Ouais. Et c'est une société qui se spécialise, en tout cas pour le moment, sur les crèmes glacées, effectivement. Alors bon, on le voit... tous les jours, hein, les allées des supermarchés débordent de produits qui s'affichent comme des solutions de substitut au lait traditionnel. Alors des substituts produits à partir de noix, de graines ou encore de céréales. Eh bien, Eclipse Foods ne veut pas être, elle, considérée comme un autre substitut. La start-up veut que ses produits soient similaires au lait conventionnel, au niveau, bien sûr, du goût, de la texture, de ses fonctions, à tel point que eh bien, la promesse, c'est de ne pas pouvoir faire la différence, tout simplement. Eclipse Food a été créé en 2019 à Oakland, en Californie, par Elon Steinhardt, qui est un expert en protéines alternatives, et le chef Thomas Bowman, qui est un ancien directeur de la recherche et du développement chez Eat Just. Je cite, « Dans notre secteur, souligne Steinhardt, personne n'est encore créer un vrai remplacement aux produits laitiers, hein, mais juste des substituts. Nous, on veut être l'impossible food ou le beyond meat du secteur. On s'attaque à un marché de 500 milliards de dollars. Et il faut savoir aussi que 70% de la population mondiale est, selon le CEO, allergique ou intolérante au lactose. Et avec nos produits tolérés par tous, eh bien, on offre une nouvelle option, une nouvelle alternative. La technologie exclusive de cette start-up permet en effet à l'entreprise de produire des produits laitiers moléculairement identiques, sans avoir besoin d'animaux. Le premier produit, donc, des crèmes glacées, une glace qui utilise en fait, et en gros, hein, on ne va pas entrer dans les détails, mais un mélange de manioc, de maïs manipulé pour refléter les produits laitiers conventionnels. Et ça fait un carton, figure-toi, François, puisque sur les 12 derniers mois, Eclipse a vu s'envoler, mais alors vraiment s'envoler, sa présence dans le retail grâce à des partenariats avec des grandes chaînes comme Whole Foods ou encore Albertsons, une chaîne de supermarchés qui est bien connue ici aux États-Unis. Et ce n'est pas tout, hein, puisque ce mois-ci, la start-up est devenue la crème glacée de base des milkshakes de la chaîne Smashburger, devenant ainsi le premier produit à base de plantes de Smashburgers. Et on notera au passage que ça le met un peu partout aux États-Unis. Hein. Il y a plus de 200 locations Smashburgers aux États-Unis. Et Eclipse ne compte pas s'arrêter aux crèmes glacées, hein, puisque la levée de fonds qui a été annoncée aujourd'hui va l'aider dans ce sens. Alors ça va certes lui permettre d'étendre bien sûr sa présence dans les magasins, ça va aussi lui permettre bien sûr d'accélérer sa recherche et développement pour développer donc de nouveaux produits. Le fonds les fonds de 40 millions de dollars, ça a été mené par Sozo Venture, et ce qui porte en fait à 60 millions de dollars le montant levé depuis la création de la société. Donc vraiment hâte de tester leur produit. Ah ouais. Pas encore fait, mais pour bientôt. Parce que j'ai regardé là, le Whole Foods du quartier, on n'a pas encore ces crèmes Eclipse. Elles sont essentiellement, bien sûr, en Californie, mais ça devrait arriver avec cette levée de fonds annoncée donc aujourd'hui.
On a vu des petites vidéos d'illustration, ça donne envie. C'est vrai que la texture a l'air similaire.
Et pareil, qu'elles sont super bonnes, figure-toi. Hein. Elles sont vraiment, ça ressemble vraiment à une glace.
Alors Sabrina, ta mission pour cet été 2022, c'est
c'est de nous trouver cette glace, de la goûter, de la tester, de nous raconter à la rentrée.
Ah, t'es d'accord dur avec moi, François.
C'est vrai, je sais, je sais. C'est des missions complexes. On est d'accord.
Ouais.
Dans l'actualité aussi, Sabrina, tu vas nous parler de cette start-up new-yorkaise qui s'appelle Hank et qui lève 7 millions de dollars pour aider les plus de 55 ans, donc ce n'est pas moi, car je tiens quand même à le signaler, j'ai un peu moins de 55 ans, à se faire des amis.
Ouais. Et c'est pas moi non plus, hein. Attention, hein. Tu me donnes pas comme mission d'aller tester la plateforme.
Non.
Hein.
Ah non, mais non, toi tu es très très loin. Tu es très très loin des 55.
Bon, il paraît qu'en tout cas, c'est pas facile hein, de se faire des amis quand on est adulte. Peut-être encore plus au fil du temps. C'est en tout cas ce que croient savoir les fondateurs de la start-up, Hank. C'est une application qui connecte les personnes âgées de 55 ans et plus dans leur communauté à travers d'événements organisés. C'est la première plateforme, nous dit Hank, qui se focalise uniquement sur cette tranche d'âge avec des événements organisés autour de l'art, d'un café ou même de sauts en parachute. On voit vraiment de tout. Certains événements sont sponsorisés par la start-up Hank. D'autres peuvent bien sûr être organisés par les membres eux-mêmes. Le cofondateur et CEO de cette start-up new-yorkaise, Brian Park, explique qu'après avoir en fait travaillé plus de 10 ans dans la tech, il a réalisé avoir créé des choses uniquement pour des gens comme lui, de moins de 40 ans. Je cite, pour moi, il y a vraiment un biais au niveau de l'âge dans la tech. Il y a ce malentendu qui dit que les générations les plus anciennes ne comprennent pas ou ne veulent pas de nouvelles technologies. Et personne ne s'est focalisé, selon lui, jusqu'à présent, sur cette tranche d'âge. Alors que ce sont ces mêmes personnes, nous dit-il, qui ont utilisé Atari et acheté le premier iPhone. Le CEO explique aussi avoir vu ses parents avoir des difficultés à rencontrer du monde après son départ du nid familial et celui de son frère. Le bureau, ils sont en retraite, donc pas non plus une source de connexion. Mm-hmm. C'est pour répondre donc à ce problème et pour aider cette tranche d'âge qu'il a créé Hank, sachant qu'en plus d'aider cette tranche, c'est un marché juteux puisque les personnes âgées de 55 et plus dépensent en moyenne 120 milliards de dollars par an en divertissement, donc why not. Hank vient donc de lever 7 millions de dollars pour se lancer et séduire cette cible. On verra, bien sûr, si la sauce prend, mais encore une fois, je ne vais pas tester cette plateforme pour toi.
Non, pas du tout. On peut demander à Fred Simotel, qu'est-ce que tu en penses?
Ah tiens, allez Fred. Oh là là.
Il n'est pas là, donc au moins comme ça, on peut raconter des trucs sur lui. Ouais. C'est pas beau, hein, c'est pas très très beau tout ça. Merci beaucoup Sabrina.
Merci François.
Et on se retrouve demain bien sûr pour What's Up New York et vous restez avec nous bientôt 21h dans Tech & Co sur BFM Business. La bonne nouvelle c'est qu'on a encore une heure à passer ensemble avec au sommaire pour notre deuxième partie de Tech & Co. Notre débrief, mobilité douce avec les jours qui sont longs, le soleil, les cheveux au vent. On va parler vélo électrique et connecté tout à l'heure. Et puis, ça sera aussi notre rendez-vous avec quelques pépites françaises du jeu mobile, notamment, qui seront sur le plateau. Ce sera notre rendez-vous French Tech en toute fin d'émission. Je vous rappelle aussi que Tech & Co, on est en direct chaque soir 20h-22h. Mais il y a aussi le replay qui est là. Sachez-le, vous pouvez à tout moment, via le petit QR code qui s'affiche sur votre écran de télé ou sur votre écran tout simple, scanner ce QR code et retrouver le lien pour télécharger Tech & Co en audio ou alors pour le regarder en vidéo, en streaming. Vous avez le choix, vous avez aussi l'appli RMC BFM Play qui fait ça très bien d'ailleurs. On revient dans un instant, ce sera l'actu tech du jour et c'est avec Frédéric Sibotel. Merci d'être là, tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
L'actu tech de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Sibotel. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François.
Très heureux de te retrouver. Frédéric, journaliste bien sûr à BFM Business, qui a fait sa moisson d'actu tech en ce mardi. Et on va commencer par Arm, vous le savez, ce géant en fait des processeurs qui se projette maintenant vers l'avenir du fait que Nvidia a annulé le rachat de Arm, c'était il y a quelques semaines.
Et on a entendu donc Maya Chaussison, qui est le patron de SoftBank, Bank, hein, l'un des principaux actionnaires d'Arm, et puis le patron René Hayes aussi de Arm, bah, qui commence à regarder le futur maintenant, parce que le rachat par
Nvidia
a été avorté. Et puis première chose, eh bien un peu en contre, en réaction par rapport aux autorités britanniques qui ont un peu bloqué ce rachat. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se dire, malgré le siège social de Arm qui est à Cambridge au Royaume-Uni, eh bien Arm va rentrer en bourse, mais sans doute pas en Angleterre. Non, il est en train de viser la bourse américaine à New York et sans doute le Nasdaq. Alors il l'avait dit, hein, Maya Schossissel l'avait dit, n'avait laissé aucune ambiguïté sur ses projets à l'époque. Déjà, il avait dit, les États-Unis c'est notre marché phare, et c'est pour ça qu'on vise l'introduction en bourse là-bas. Voilà, et la plupart de nos clients sont dans la Silicon Valley, tous les marchés boursiers aux États-Unis c'est là qu'est la tech, donc nous on va aller à fond là-bas. Mais voilà, lorsque SoftBank a mis la main sur Arm, et bien Arm était une grosse valeur au niveau britannique, et puis là et bien c'est en train de bousculer. Et puis faut quand même voir que le Financial Times a eu des infos comme quoi le gouvernement britannique songeait à jouer la carte de la sécurité nationale pour empêcher Arm d'aller aux États-Unis, notamment en bourse. Néanmoins, ce que disent les experts, c'est que les décisionnaires seraient divisés sur le pouvoir que lui octroie le National Security Investment Act, si SoftBank ne pouvait se retourner contre lui. Voilà, parce qu'il faut quand même savoir que les licences d'Arm, c'est 95% des smartphones. Et puis Arm, du coup, ils ont présenté aussi leur plan d'expansion. Il veut utiliser le produit de son introduction pour embaucher davantage d'ingénieurs, réaliser des acquisitions.
Se tourner aussi vers le jeu mobile, j'ai vu.
Le jeu mobile, étendre ses acquisitions vers le téléphone mobile, vers les voitures, les centres de données, le métaverse, évidemment. Donc Arm est parti, c'est assez drôle de dire un rachat avorté, et hop, on repart dans l'autre sens. Petite nouvelle
aussi. On va pas se faire souci pour Arm, je pense.
Non. Et il y en a un autre pour lequel on se fait pas de souci. Juste là, c'est tombé il y a à peine 5 minutes, c'est les actions de Qualcomm qui ont augmenté de plus de 5% à l'instant, parce qu'il y a un analyste qui a déclaré qu'il voyait Apple utiliser les modems 5G de Qualcomm dans les iPhones 2023. Et donc ça veut dire qu'on en a encore pour 2-3 ans, et du coup Qualcomm, l'action a grimpé.
Rappelons que Apple veut petit à petit se désolidariser de Qualcomm et fabriquer ses propres puces, mais visiblement fabriquer une puce 5G, ça prend plus de temps que prévu.
Pour Arm, un nouveau coup de boost, et pour Qualcomm, eh bien voilà, on continue quand même à bosser avec Apple.
Dans l'actualité aussi, eh bien, si vous êtes un utilisateur des VTC, que ce soit Uber ou Lyft ou d'autres, eh bien, peut-être allez-vous constater que de plus en plus de chauffeurs utilisent des Tesla.
Oui, et c'est ce que l'on voit notamment pour les chauffeurs. Alors, Uber a signé avec Tesla un accord, mais il y a plein de sociétés de location aussi. Hertz a signé avec Tesla, et on voit de plus en plus de chauffeurs. Alors, pour l'instant, c'est aux États-Unis, mais c'est en train, ça va certainement arriver là. En cause, eh bien quoi? C'est la hausse, la flambée des prix du pétrole, hein. Et c'est tout simple, hein. On voit, ils ont pris en exemple, alors c'est Bloomberg qui a fait ça dans une dépêche. Ils ont expliqué que quelqu'un voulait racheter une Toyota. Finalement, il se dit, tiens, je vais prendre un modèle 3. Et puis, bien lui en a pris, puisque là où le plein de la Toyota, c'était $60, eh bien, c'est monté à plus de $100. Et quand il compare par rapport à la location, achat, longue durée, etc., qu'il a pris avec cette Tesla pour faire du VTC, hein, je rappelle, là, c'est pas encore de l'individuel, eh bien pour $350, il a l'assurance, l'entretien de base, kilomètres illimités, et ça lui revient beaucoup moins cher qu'une voiture électrique, même électrique, enfin qu'une voiture thermique, et même qu'une voiture électrique d'autres marques. Donc voilà, on voit ce nouveau manège qui est en train de s'instaurer. On voit des chauffeurs Uber, on voit des chauffeurs Lyft aussi qui sont en train de se tourner vers Tesla. Donc voilà, tout le monde regarde assez allègrement et avec bienveillance les Tesla aujourd'hui, avec ce marché. Et peut-être que Tesla va finalement arriver, parce qu'on sait que quelque part, le but de Tesla, c'est aussi aller vers tous ces chauffeurs, mettre de la conduite autonome, et puis voilà. Et Uber et Tesla, eh bien là, s'ils se rejoignent sur cet effet-là, ça va finir par arriver sur ce modèle-là.
Bien sûr, ça apporte un confort supplémentaire.
Plutôt dans les grandes villes américaines et moins dans les cités un peu tortueuses de notre pays.
Voilà, revenons à la sombre réalité, ce conflit, bien sûr, Russie-Ukraine, avec une cyberattaque de très grande importance menée par la Russie vers la Lituanie.
Oui, la Lituanie qui a déclaré là, avoir été la cible d'une cyberattaque intensive, dont il dit, alors c'est par déni de service, hein, DDoS, donc le principe c'est on envoie des requêtes, et on bloque un maximum de sites de l'administration lituanienne. Et alors ça, vous savez, en ce moment, il y a une enclave russe de Kaliningrad, là, qui est bloquée, et on doit passer par la Lituanie pour y arriver, entre la Russie et la Lituanie, et donc comme la Lituanie veut bloquer ce tunnel, ce passage entre cette enclave
russe
et la Russie, ben la vengeance russe, c'est là pour le coup, ce ne sont pas des missiles ou des obus, ce sont une cyberattaque. Alors l'attaque a été revendiquée par Killnet, qui est un groupe de pirates russes, mais les autorités lituaniennes ont dit que le plus gros des dommages avait été évité, parce qu'évidemment les Lituaniens, c'est pas des manchots non plus en termes de cybermenaces, donc ils savent aussi se défendre, mais voilà, il y a quand même eu quelques dégâts, mais on voit vraiment il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, c'est que les Russes ont repris, on l'a vu au niveau militaire, malheureusement de façon tragique, ils ont repris un peu la main dans le conflit. Et bien c'est un peu la même chose en cybersécurité, ils sont en train d'être un peu plus menaçants et on les voit beaucoup plus.
Voilà, on voit d'ailleurs à l'antenne, si vous êtes avec nous à la télé, des vidéos une vidéo de la revendication en fait de ce groupe qui circule sur Internet.
Et c'est Jonas Skarindas qui est le patron du Centre national de cybersécurité qui a confirmé que ça venait bien de Russie pour toutes ces attaques.
Voilà, pour terminer notre petit dessert du jour. Bon, ça fait un moment qu'on mange ce dessert là quand même. C'est l'épisode Elon Musk Twitter. Quoi de neuf aujourd'hui concernant cette histoire?
Elon Musk voulait les vrais data de Twitter, il les a avant de pouvoir débourser ses 44 milliards. Donc on s'est dit, ça y est, il a toutes les données, il va pouvoir finaliser ses actions, il a les faux comptes, il a a priori des données sur le trafic, il a tout ça. Mais voilà, on se rend compte que en termes juridiques, bien avoir accès à ces data, ça ne dit pas si beaucoup de robots, en nombre de requêtes, si ce n'est pas des robots qui font un peu le trafic de Twitter. Et là, il a beaucoup de mal. Et là, enfin, tous les experts disent que oui, il peut récupérer le nombre de faux comptes, qui peut récupérer voilà, un peu les chiffres de trafic de Twitter, mais il aura bien du mal à savoir quel est le trafic généré par des robots contre le trafic ou par des spams contre le trafic généré par nous tous, enfin, par tous ceux qui vont tweeter. Et là on sent qu'il y a encore un nœud à démêler, mais celui-ci, selon tous les experts, autant le nombre de faux comptes, le nombre de faux comptes, le trafic, ça on peut le gérer, autant là les robots, les spams, ça commence à être un peu plus compliqué. Et en attendant, l'offre de 44 milliards, elle tourne toujours et c'est pas encore signé.
Oui, le compromis n'est pas signé.
Ça va faire 2 mois. Ça fait un moment.
Merci beaucoup, Fred. Fred, je sais que tu es un adepte des nouvelles technologies. J'imagine que tu as pris en main le dernier smartphone de Samsung, tu sais, Galaxy Z Fold 3, le téléphone qui s'ouvre à l'horizontale et qui permet d'avoir, en fait, qui transforme ton smartphone en vraie tablette pour regarder des films, pour travailler, etc. C'est un très beau téléphone qui est sorti à la rentrée dernière, qui est bien évidemment 5G, qui est compatible avec le stylet Samsung. Donc, vous pouvez manipuler des dessins, transformer des documents, etc. Un très beau téléphone, donc un smartphone pliable Samsung que nous vous offrons durant toute cette semaine dans Tech & Co. C'est une première, comme je disais hier, c'est la première fois qu'on vous offre un cadeau, et dans Tech & Co, vous offrir un smartphone haut de gamme signé Samsung, ça nous paraît pertinent. Pour jouer, c'est simple, on joue exclusivement par SMS et vous nous envoyez dès maintenant le mot Tech, T-E-C-H, par SMS au 7-32-16. Ce sont des SMS surtaxés, bien sûr, et si vous êtes tiré au sort, ce sera le 4 juillet d'ailleurs, le tirage au sort, eh bien, peut-être qu'on vous enverra avec beaucoup de plaisir ce smartphone qui est superbe d'ailleurs. Bonne chance, Tech par SMS au 7-32-16. On revient dans un instant, vous le savez, Tech & Co. On est là chaque soir en direct, 20h-22h sur BFM. A tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Le débrief de la tech est un débrief mobilité douce. En plus, la saison s'y prête. Je vous présente tout de suite nos deux invités. J'accueille Amélie Guinchenet. Bonsoir Amélie.
Bonsoir.
Vous êtes la cofondatrice de Gaïa. Vous vous lancez dans une aventure qui doit être passionnante, entrepreneuriale de dingue. Lancez un nouveau vélo électrique connecté. Vous allez nous raconter tout ça. Et puis Florence Arrête, c'est avec nous aussi. Bonsoir Florence.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale France de Thiers Mobility, qui, il faut savoir, n'est pas un petit joueur hein, dans ce domaine de la mobilité partagée, puisque vous êtes le leader mondial des micro-mobilités, avec des chiffres qui sont hallucinants. Est-ce que vous pouvez nous présenter Thiers, qui est une entreprise allemande au départ?
Oui, au départ, une entreprise allemande qui a bien grandi, effectivement, puisqu'aujourd'hui, on déploie 300 000 véhicules à travers le monde. La vocation et l'ambition première de Thiers dans la micromobilité, c'est d'abord d'offrir une alternative fiable, durable et accessible à la voiture pour les trajets du quotidien. Donc on fait ça en déployant des flottes de vélos, de trottinettes, de scooters électriques dans plus de 500 villes dans le monde aujourd'hui. On est en France depuis 2019, dans 6 grands territoires, une quarantaine de villes et de communes françaises. Et aujourd'hui, on est près de 200 salariés sur le territoire français, dont 150 qui travaillent tous les jours à déployer un service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Alors on va se focusser sur Paris, hein, forcément. Je m'excuse auprès de tous ceux qui nous écoutent et nous regardent ailleurs, mais vous êtes dans d'autres grandes villes de France, j'imagine.
Tout à fait.
Paris, l'actualité, c'est que en complément des 5000 trottinettes Thiers qui sont d'ores et déjà disponibles, depuis quelques jours et jusqu'au 13 juillet, vous déployez plusieurs milliers de vélos électriques un peu partout.
À travers Paris, on va arriver à 2550 véhicules d'ici la fin du mois de juillet. Plus généralement, au-delà de Paris, dans la région parisienne, on arrive à une flotte de 11 000 véhicules. On est le premier opérateur en région Île-de-France. Le premier à, du coup, appliqué la micromobilité, à l'avoir sorti des centres densément peuplés pour des territoires périurbains, comme l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'agglomération de Saint-Germain-Boucle-de-Seine, par ailleurs. Donc on a une emprise territoriale qui dépasse largement Paris, et on démontre qu'on ancre la micromobilité dans la réalité quotidienne des Franciliens.
Alors Florence, la complexité, je pense pour vous aussi, c'est de sortir de toute cette concurrence, parce que aujourd'hui on voit une ville comme Paris qui pousse à fond évidemment les mobilités douces avec plusieurs acteurs. Alors bien sûr il y a Vélib, bien sûr il y a Lime, il y a Dot, il y en a d'autres aussi. Et donc vous, comment se différencier? Est-ce que finalement un client va avoir un intérêt à choisir votre trottinette ou votre vélo Thiers par rapport à tous ceux de la concurrence?
Je l'espère. Mais d'abord, s'il y a beaucoup de concurrence, c'est d'abord qu'il y a une demande. Et intrinsèquement, et je pense qu'Amélie aura le même constat, déjà depuis 2019, pour les micromobilités en France, la France est un marché qui s'est énormément structuré grâce à un cadre législatif tout à fait encourageant. Mmh. Et nous, on accompagne généralement un élan politique qu'on note partout en France de volonté de développement de micromobilité, de mobilité alternative. Au-delà de ça, je pense qu'il y a 3 choses qui font vraiment la différence. Ça va d'abord être la prise en compte de la sécurité, celle des usagers. Donc sur notre flotte parisienne, par exemple, vous voyez des casques qui sont mis à disposition gratuitement, des casques pliables dans des petites boîtes noires.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où je loue une trottinette ou un vélo,
j'ai accès à un casque que je peux déplier et me protéger avec.
D'accord.
C'est aussi la sécurité.
Au niveau hygiène, ça va?
Il y a des charlottes. Tout est prévu.
Vous avez pensé à tout.
En termes de sécurité, c'est aussi la sécurité des non-usagers. Parce que notre vocation première, c'est aussi d'établir un service pérenne dans l'espace public. Donc pour ça, on va mobiliser des investissements tech assez significatifs. On a une technologie de positionnement par caméra qui est 10 fois plus précise que le GPS, qui se prête particulièrement à des environnements urbains et qui va permettre de gérer la flotte de manière technologique.
Attendez, expliquez-nous, c'est très intéressant ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces engins sont géolocalisés avec un GPS?
Oui.
Sauf que vous rajoutez une autre techno pour les localiser encore plus précisément.
Quand je termine mon trajet, en trottinette ou en vélo.
Donc sur un lieu spécifique, hein, puisque maintenant, aujourd'hui, il y a des parkings pour les trottinettes et les vélos. Hein.
Tout à fait, il y a plus de 7000 places de stationnement pour les vélos dans Paris. Hein, donc on s'intègre aussi dans un plan d'infrastructure bien défini. Et donc quand je vais terminer mon trajet, l'application va reconnaître que je suis bien dans un espace de stationnement. Si ce n'est pas le cas, je ne peux pas me garer.
D'accord.
Donc ça, c'est très important parce que...
Et ça, tous le font aujourd'hui.
Ils ne le feront pas de cette manière ou pas aussi précisément.
D'accord.
Ou voilà.
Okay.
Et donc, ça, c'est des éléments très importants pour assurer...
Et différenciant par rapport à la concurrence.
Pour assurer le bon respect de l'espace public et contenter à la fois les usagers et les non-usagers. Les autres aspects, ça va être aussi l'excellence opérationnelle. Je mentionnais 150 personnes dans les équipes internes à Thiers qui veillent à la bonne gestion de la flotte. pourquoi c'est important ? Parce que le premier critère de choix, c'est la disponibilité de la flotte. Est-ce que le véhicule est à proximité ? Est-ce qu'il est en bon état ? Est-ce qu'il a été réparé ? Donc ça, c'est hyper important, mais ça, parce que ça est un critère de choix.
Le fait qu'il soit à proximité, il y a une ventilation en fait, automatique de tous ces engins. Hein.
Voilà, oui, mais ça a aussi assuré les réparations en temps et en heure. Il y a un vrai travail aussi à la fois de réparation.
Mais est-ce que vous dispatchez ?
Oui, tout à fait.
Vous prenez par exemple des trottinettes qui sont toutes à un même endroit, vous allez les ventiler tout ça pour essayer d'homogénéiser en fait le parc.
Oui, et c'est des technologies qu'on développe aussi en interne de manière propriétaire, nos propres outils pour gérer la flotte au mieux, optimiser son utilisation, c'est-à-dire que faire en sorte que les véhicules soient au bon endroit, au bon moment, pour qu'ils soient utilisés. Et ça, ça va être le critère de choix numéro un.
Très bien. Alors, ces vélos donc, qui arrivent, il y a aussi pas mal de questions concernant l'écologie, parce que c'est vrai que c'est toutes ces trottinettes, on voit qu'il y en a qui terminent dans la Seine, il y en a d'autres qui sont piratées et volées, hein, il ne faut pas se voler la face. Hein, il y a quand même pas mal de ces appareils qui ont d'autres vies un peu particulières. Est-ce que vous êtes vigilant par rapport à tout ça, par exemple le recyclage des batteries, des choses comme ça ?
Alors, tout à fait. Alors, d'abord, je ne partage pas votre constat entièrement, parce que les comportements ou les problèmes qu'on a pu constater au tout début de ces flottes partagées sont quand même largement réduits.
C'est vrai ? En fait, il y a beaucoup moins de problèmes aujourd'hui ?
Il y a plusieurs éléments qui permettent ça. D'abord, il y a le véhicule en tant que tel, le vélo, là qu'on voit là, il pèse 40 kg. Donc, il faut déjà y aller. Les freins se bloquent automatiquement et il est très difficile à déplacer. Et on a des mécanismes anti-vol intégrés à notre véhicule.
D'accord.
Et donc, par ailleurs, je vous entendais parler de recyclage. Avant même le recyclage, nous, on a de la conception des véhicules, on va les concevoir de manière modulaire pour faciliter leur réparation. La clé, c'est déjà d'allonger leur durée de vie. Pour vous donner un exemple, à Lyon, la trottinette la plus utilisée, elle a déjà fait plus de 8000 km, Paris-Pékin. Donc, on a vraiment à cœur de s'assurer de maximiser la durée de vie de nos véhicules pour réduire notre impact environnemental. Tout tir est organisé dans cette logique de réduction continue des émissions. En termes de batterie, au-delà du recyclage, c'est vraiment la réparation en fait, à laquelle on s'attelle. On a des partenaires, notamment DoctiBike à Lyon, qui est le pionnier en la matière.
Qu'on a reçu dans Tech & Co d'ailleurs.
J'ai vu ça.
Qui a mis au point une technologie qui permet de réparer les batteries, puisqu'en fait, une batterie s'use. En quelque sorte.
Et on va changer les cellules.
Voilà, c'est ça. Alors qu'avant, auparavant, elles étaient jetées ou brûlées. Enfin, c'était.
Pas chez nous. Mais
Non, pas chez vous, mais d'autres acteurs. En tout cas, c'est ce que DoctiBike nous racontait. Et maintenant, on arrive à les réparer.
Oui, tout à fait.
Pour leur donner une deuxième vie.
C'est vraiment un élément clé de notre approche de manière holistique chez TIR. Et au quotidien.
On n'a pas parlé du prix, Florence, des tarifs. Il y a une concurrence entre tous ces acteurs, en fait, de la mobilité aujourd'hui ? Est-ce que la concurrence se joue sur d'autres terrains ?
La concurrence, c'est pas une concurrence, c'est pas une concurrence prix. C'est d'abord la qualité du véhicule qui doit être un véhicule sûr, solide, comme je disais, disponible, en bon état. C'est d'abord ça qui va compter. Et on est sur une logique aussi des cas d'usage qui sont vraiment du rabattement vers les transports, une complémentarité à d'autres transports. On s'inscrit dans un mix de modalités un petit peu plus large. Et donc, je crois que c'est ça qui compte davantage. Hein. On le voit en dehors de Paris. On a des utilisations à Saint-Quentin. 60% des utilisateurs nous utilisent au quotidien. Et donc, ça, c'est vraiment un aveu, un signe de réussite, je pense, et de plébiscite.
Oui, bien sûr. Là, on voit, il y a ces mobilités partagées. Ce sera ma dernière question. Après, on va découvrir le vélo d'Amélie Guinchenet-Gaillard. On voit aussi qu'il y a de nouveaux modèles économiques maintenant, de location, de trottinettes ou de vélos, etc. C'est un sujet qui vous intéresse. Est-ce qu'on peut faire à la fois ce que vous faites, donc trottinettes partagées, s'intéresser à un autre business model, par exemple, de la location de trottinettes ou de vélos ?
Alors, c'est déjà le cas chez TIR, parce que fin d'année dernière, on a racheté le leader européen des flottes avec station d'attache qui s'appelle Nextbike.
D'accord.
Donc, on est déjà, nous, présents sur des contrats à la fois en flotte partagée ce type et des contrats plus longs vélo électrique ou non, avec station d'attache, sur des contrats beaucoup plus longs de type délégation de service public. Donc, déjà, on sait...
Mais pas pour les particuliers, en revanche.
Non. Mais on sait déjà s'atteler, via les villes, on sait déjà s'atteler à différents business models. Ensuite, je pense que chacun des business models va répondre à un cas d'usage un peu différent. Je pense qu'on est très certainement un premier pas, en tout cas, pour des gens qui veulent délaisser leur voiture.
Pour tester, en fait, ça, avant de passer à une utilisation plus intensive d'une trottinette ou d'un vélo, et là, ou l'acheter ou le louer.
Voilà,
belle transition. Merci beaucoup, Florence. Vous restez avec nous, Tier Mobility, vous en êtes la directrice générale. Amélie Guinchenet, donc, voilà, après avoir testé les trottinettes ou les vélos Tier, j'ai envie de m'acheter un vrai vélo parce que ça me plaît. Eh bien voilà, un nouveau constructeur de vélos arrive et ça s'appelle Gaïa. Vous vous lancez dans cette aventure?
Exactement, donc on lance Gaïa. Gaïa, c'est une nouvelle marque de vélos électriques connectés qui simplifie la vie des familles urbaines. Donc notre type, c'est vraiment les familles en ville et on a veillé à pouvoir proposer des vélos qui permettent de rouler en solo ou en duo avec un deuxième adulte ou voire même avec un, deux, voire trois enfants. Donc on emmène toute la famille sur le vélo électrique.
Pas mal, mais attendez, trois enfants, vous les mettez où ?
Et on les met à l'arrière. On a ce qu'on appelle un vélo cargo, long tail pour les experts. Donc c'est un porte-bagages en fait qui est allongé.
Si vous êtes avec nous là, c'est ce qu'on a vu il y a un instant.
C'est ce que vous venez de voir, exactement.
On vous voit aussi en photo, j'ai l'impression, c'est vous ?
Tout à fait.
Ça va, vous êtes chef d'entreprise, mannequin, tout va bien, c'est le top.
On se prête au jeu quand on est une start-up, on joue tous les rôles.
C'est clair, et alors donc on voit, c'est plutôt malin, hein. Donc ils sont à l'arrière, bien installés, sécurisés, la petite ceinture, le casque, c'est ça, et c'est parti.
Exactement. En fait, le gros avantage du vélo cargo, comme on le conçoit nous, c'est qu'il peut porter 160 kg de charge. Donc, vous pouvez du coup emmener beaucoup de monde ou beaucoup d'équipement, si vous êtes un pro. Et le deuxième élément, c'est qu'on est venu vraiment travailler toute la sécurité et la sérénité de conduite. On se retrouve avec TIR sur ces valeurs fondamentales, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour avoir un report modal, pour passer de la voiture au vélo, il faut se sentir en toute sécurité, surtout quand on emmène des passagers. Et cette sécurité...
Surtout quand c'est des enfants, forcément.
D'autant plus avec des enfants, tout à fait. Et ça, nous, on a eu envie de le travailler, notamment via la technologie. La technologie embarquée, avec un traceur GPS qui permet du coup de lutter contre le vol. On le sait, un vélo est volé à peu près toutes les minutes en France. Donc c'est énorme.
Donc là, si par exemple quelqu'un nous vole le vélo, on va pouvoir le suivre à la trace.
Exactement. Il y a plusieurs éléments. Déjà, votre vélo va
sonner. Là, vous n'êtes pas les seuls à faire ça.
On n'est pas les seuls à faire ça. Mais on est les premiers à faire ça sur un vélo cargo.
D'accord.
Et on est la première marque française à faire ça sur un vélo cargo au global. Et donc, si jamais quelqu'un essaie de vous voler votre vélo va sonner. Ça, c'est déjà le premier élément. 105 décibels, ça permet d'alerter quand même les gens qui sont autour.
Oui, et puis ça met mal à l'aise le voleur, forcément.
Exactement. Vous avez une notification sur votre smartphone qui vous permet vous-même d'être alerté et personne ne peut allumer le vélo. Et donc, avoir un vélo électrique que vous ne pouvez pas allumer, dont vous ne pouvez pas lancer l'assistance électrique, c'est quand même assez préjudiciable. Et on peut géolocaliser le vélo et le suivre. Et donc, moi, à titre personnel, je me suis fait voler le prototype sur lequel je travaillais à la sortie d'un bar dans le 18e arrondissement. Et deux jours après, j'ai pu aller le récupérer dans l'Oise avec, du coup, mon associé, Jacques. On est allé récupérer le vélo grâce à la gendarmerie locale.
C'est dingue.
On a testé et prouvé.
Cela dit, ça prouve en tout cas que votre vélo a plu, s'il a été volé.
Exactement.
C'était peut-être la mince satisfaction globale de cette mésaventure. En plus, il y a des chiffres qui sont intéressants. 70% des utilisateurs réguliers de vélos électriques ont abandonné la voiture pour le vélo. Donc, c'est quand même impressionnant. Hein.
On est convaincu qu'un vélo électrique qui est polyvalent comme le nôtre, c'est-à-dire qui peut vraiment s'inscrire dans votre journée globale, le matin vous permettre de déposer les enfants, ensuite d'aller au travail, d'aller faire des courses, récupérer les enfants, aller à un lieu de loisir, c'est un outil, c'est une vraie alternative à la voiture. Et donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec Gaïa, offrir une alternative fiable, sereine et écologique aussi à la voiture pour les trajets du quotidien.
Voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est que là, vous lancez, vous avez lancé les précommandes donc, de Gaïa, c'était début juin.
Tout à fait, on démarre début juin, on a un site e-commerce, donc on peut acheter un vélo Gaïa dans toute la France. On livrera au mois de septembre, pareil, dans toute la France. Et aujourd'hui, vous pouvez déjà essayer les vélos Gaïa sur le canal Saint-Martin, parce qu'on a un atelier qui est à la fois le lieu de conception et le lieu d'exposition des vélos, où tout le monde peut venir tous les jours, on est ouvert et on accueille les curieux.
Quelle aventure entrepreneuriale, Amélie, lancer comme ça, enfin une marque de vélos, construire des vélos, les designer, etc. Comment faites-vous ça doit être titanesque comme boulot, ça.
Alors on s'ennuie pas, je vous le cache pas.
C'est un projet qui date de, qui remonte à combien de temps, ça?
On a commencé à travailler sur le projet il y a un peu plus d'un an, avec mon associé. J'ai la chance d'être associée avec quelqu'un qui a passé 20, 30, 40 ans dans le secteur de la mobilité, qui a lancé notamment toute l'activité électrique de Matra, avec à l'époque le premier vélo électrique.
Donc oui, vous ne partez pas de zéro, on va dire. Oui.
Donc j'ai un binôme, Jacques Bonneville, qui est un expert sur ces sujets-là. Et moi, je viens avec, je dirais, mon background.
Oui, bien sûr.
Dans les sujets du marketing, du digital, de l'expérience client.
Et puis, et le cargo, il fallait y penser quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de familles. C'est plus des femmes ou des hommes qui utilisent le vélo cargo? On a des données là-dessus?
Aujourd'hui, on a en tout cas des clients et des prospects qui sont vraiment équilibrés. D'accord. On a autant d'hommes que de femmes. C'est vrai qu'on a beaucoup de femmes qui sont très intéressées par le cargo et qui le voient comme un bon moyen, notamment d'emmener les enfants un peu partout. Et aujourd'hui, forcément, moi, j'ai travaillé sur ce sujet-là plus particulièrement, parce qu'en fait, j'ai fondé Gaïa après la naissance de mon fils. Et ça a été une question un peu fondamentale. Léo, mon petit garçon, avait 1 an quand j'ai fondé Gaïa. Et je me suis, à titre personnel, posé la question de comment est-ce que je pouvais avoir un impact sur la ville dans laquelle mon fils grandit. Fils grandit à Paris, j'ai grandi à Paris. Et la question que je me suis posée, c'est comment, dans mon quotidien professionnel, je peux faire pour que lui grandisse dans une ville qui soit à la fois plus fluide et plus saine.
Toujours en étant le plus sécurisé possible. Hein,
exactement.
On le sait, parce que c'est un vrai problème aussi, hein, malgré tout. Juste un mot, combien coûte Gaïa, le vélo? Alors j'imagine qu'il y a plusieurs modèles, en tout cas plusieurs, une modularité, c'est
voilà,
ça?
Voilà, l'offre, elle est,
on est à combien?
Très simple. En fait, on a un vélo qui se décline en 2 longueurs. Donc sur le vélo sur lequel vous pouvez mettre un conducteur et un adulte, on est à 1 700 €. Sur le vélo sur lequel vous pouvez mettre un conducteur et jusqu'à 2 ou 3 enfants, on est à 2 300 €.
D'accord. Avec plein d'aides, hein, notamment à Paris. Enfin, il y a des accompagnements, même des entreprises aujourd'hui, hein, qui donnent des subventions, hein, pour les vélos électriques. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Amélie Guinchenet, et bon vent donc dans cette aventure entrepreneuriale avec Gaïa. Et merci aussi à Florence Arretz, directrice générale France de Tyr Mobility, avec tous ces nouveaux vélos qui arrivent à Paris. Merci à toutes les deux. Bientôt 21h30 sur BFM Business. Tech & Co revient juste après le journal de Claire Ceccaglini. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
21h42, nous voilà de retour. Tech & Co, chaque soir, 20h-22h. N'oubliez pas la rediffusion de Tech & Co, chaque soir, hein, cette émission. Rediffusé sur la chaîne Tech & Co, puisque vous le savez maintenant, Tech & Co, c'est votre rendez-vous sur BFM Business tous les soirs. C'est aussi une chaîne de télé, 24h/24, une chaîne 100% dédiée à la tech que vous retrouvez sur toutes les box opérateurs, mais c'est aussi un site web qui s'appelle tout simplement Tech & Co et qui vous tient au courant heure par heure de toute l'actualité tech. Notre rendez-vous French Tech, justement, maintenant avec nos deux invités que je vous présente. Sacha Lazimi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur et président de Youbo, qui est un réseau social qui cartonne auprès des jeunes, et vous allez nous présenter tout ça dans un instant. Et puis Daniel Nathan est avec nous aussi. Bonsoir Daniel, vous êtes cofondateur et président d'Oma Games, qui cartonne aussi dans le jeu vidéo mobile. On connaît Vodou, hein, qui est une vraie pépite. Mais voilà, vous êtes derrière Vodou et vous vous laissez pas faire. Vous êtes dans le hyper casual, mais on va y revenir dans un instant. Sacha, présentez-nous un peu Youbo, qui est donc un réseau social de la fameuse génération Z. Exactement. Qu'est-ce que c'est que Youbo ?
Exactement. Alors Youbo, c'est une plateforme sociale designée pour la génération Z, qui leur permet de socialiser en ligne. Et concrètement, en fait, on prend le meilleur des interactions de la vie réelle et on y ajoute le pouvoir de la technologie pour qu'ils puissent se connecter instantanément avec le bon groupe de personnes, n'importe où dans le monde, n'importe quand et de la manière la plus sécurisée. Et donc, comme dans la vraie vie, en fait, c'est des groupes de discussion d'en moyenne 10 personnes. D'accord. Qui discutent à l'aide de la vidéo, de l'audio et d'un chat, tout ça en temps réel.
Ça cartonne, Youbo ?
C'est ça cartonne. On a plus de 60 millions d'utilisateurs qui sont majoritairement basés aux États-Unis, en Angleterre et dans les pays anglophones.
Vous avez 18 millions d'abonnés aux US, c'est ça, hein ?
C'est ça, exactement. Plus de 18 millions d'inscrits aux États-Unis. Donc c'est notre premier marché et le deuxième marché, c'est l'Angleterre.
D'accord. L'actualité vous a rattrapé, Sacha, avec cette sordide histoire. Hein, vous vous souvenez évidemment de Salvador Ramos, ce jeune tueur qui a fait un massacre dans une école. C'était il y a quelques semaines de cela. Et on a appris que Salvador Ramos était un utilisateur de votre plateforme, Yubo, et qu'il aurait proféré justement des menaces de viol et de massacre sur cette plateforme. Ça avait été d'ailleurs même signalé par de jeunes utilisateurs qui avaient dit « Attention, ce gars-là a un comportement qui n'est pas normal sur la plateforme ». En tant que cofondateur de ce réseau social, quelle est votre première réaction en fait sur ce sujet ?
Notre première réaction, c'est comme la vôtre, hein, c'est une tragédie qui s'est passée. Et effectivement, les réseaux sociaux, c'est le reflet de la société. Et donc, il y a beaucoup de gens bien, et malheureusement, il y a des gens aussi qui sont pas bien. Et c'est pour ça que nous, en tant que plateforme sociale, on prend notre responsabilité et on joue notre part dans la société pour faire en sorte, dans un premier temps, de sécuriser au maximum la plateforme pour nos utilisateurs. C'est d'ailleurs la safety, c'est notre priorité en fait depuis le début de Yubo. Et aujourd'hui, on est des leaders en termes de modération en temps réel sur la plateforme.
Mais visiblement, là, ça n'a pas marché.
Comme la safety, en fait, c'est de l'itération en continu. Ça ne fonctionne pas à 100% et notre travail, c'est justement de s'améliorer au jour le jour.
Est-ce que cette histoire horrible a changé quelque chose dans la conception de votre réseau social ?
Comme à chaque crise, en fait, nous, ce qu'on a fait sur Yubo, c'est que on a accéléré le développement de la safety et de la modération sur la plateforme. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est que on a changé et remodifié un peu toutes nos règles pour les rendre encore plus strictes. Mm-hmm. On a ajouté une fonctionnalité, on est les premiers d'ailleurs en termes de plateforme sociale à avoir ajouté des algorithmes qui modèrent l'audio sur la plateforme dans les groupes de discussion en temps réel. Et enfin, on a aussi amélioré le moyen de signaler le contenu sur la plateforme pour permettre justement à nos utilisateurs d'ajouter des médias, des photos, des vidéos quand ils signalent quelque chose sur la plateforme pour que nos modérateurs ils aient plus de contenu et de contexte en fait au moment de la modération.
D'accord. Comment pourrait-on présenter Yubo en fait à tous ceux qui ne l'utilisent pas parce que ils sont trop vieux ou hors cible, etc. C'est comme un super WhatsApp en fait.
Non, pas du tout. En fait, on n'est pas du tout en compétition avec une application de messagerie qui va nous connecter avec notre réseau. On n'est pas en compétition avec une application de discovery de contenu.
Oui, comme TikTok ou Instagram, voilà, puisqu'en fait, c'est pas l'objectif.
Non, exactement. Ces plateformes-là, elles nous permettent de découvrir du contenu. Sur Yubo, vraiment, c'est un espace pour socialiser en ligne, en temps réel, avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, c'est vraiment un espace public avec des groupes de discussion, exactement comme dans la vraie vie, dans en moyenne 10 personnes qui vont discuter autour de sujets. Et en fait, nos utilisateurs, ils sont vraiment sur la plateforme simplement pour rigoler, passer un bon moment et discuter avec des personnes de leur âge.
Très bien. Ça parle beaucoup de jeux vidéo.
C'est ça.
Yubo.
Il y a beaucoup de jeux vidéo, il y a beaucoup de débats. C'est vraiment les discussions qu'on pouvait avoir quand on avait 16, 21 ans avec nos groupes de copains, quand on était dans la cour de récréation, dans un terrain de foot, terrain de basket, et qu'on discutait avec eux pour socialiser.
Comment voulez-vous faire évoluer Yubo ? Parce qu'on voit que les réseaux sociaux, c'est en perpétuel mouvement, la plupart se copient, enfin voilà, il faut tout le temps innover. Quelles sont les pistes en fait de recherche que vous avez pour ou améliorer Yubo ou le rendre encore plus performant?
Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'être des leaders en termes de plateforme sociale et de permettre à nos utilisateurs de s'exprimer exactement comme ils le font dans la vraie vie, de se comporter exactement comme on se comporte dans la société pour enfin simplement être eux-mêmes et être avec des personnes qui leur ressemblent. Et donc nous, en fait, on va à l'inverse des plateformes sociales actuelles parce qu'il n'y a pas de likes, il n'y a pas de vues, il n'y a pas de followers. Nous, sur la plateforme, c'est simplement des personnes, des discussions en temps réel et des comportements de groupe.
Et donc, je rejoins un groupe de discussion parce que le thème de ce groupe m'intéresse. C'est comme ça que ça marche ?
Parce que les personnes nous intéressent dans ce groupe et le sujet de discussion nous intéresse. Et ensuite, je peux rejoindre ce groupe et si on m'invite à discuter avec ces personnes, je peux discuter avec eux en temps réel.
Alors, vous dites que c'est cette fameuse génération des 13-25 ans qui constitue 90%, 99% des utilisateurs de Yubo. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi pas des adultes plus vieux ?
Parce qu'en fait, la génération Z, c'est la génération la plus connectée aujourd'hui dans le monde et qu'il n'y a pas de différence pour eux entre la vie réelle et la vie virtuelle. Ça fait partie intégrante, en fait, de leur vie et qu'ils ont exactement les mêmes besoins sur le mobile et en ligne que dans la vraie vie. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de solution à part Yubo qui leur permettait vraiment de se faire des amis et de discuter exactement comme on pourrait le faire avec des personnes de son âge, de la même manière qu'on le ferait dans un espace public, dans la vraie vie.
Très bien. 99% donc ont entre 13 et 25 ans et 95% des nouveaux inscrits, dont 75% ont entre 16 et 21 ans aussi.
C'est ça, c'est ça. Donc c'est notre cœur de cible, c'est vraiment les 16-21 ans, parce qu'on a des groupes d'âge aussi sur la plateforme pour que justement on puisse discuter avec les personnes.
Et pas des mêmes sujets forcément.
Pas des mêmes sujets, et puis discuter vraiment avec des personnes de notre âge comme on le fait dans la vraie vie.
Très bien, vous restez avec nous. Sacha, j'imagine que vous jouez sur votre mobile, forcément.
Forcément.
Vous n'êtes pas tout le temps sur Yubo. Puis si non. Je puis me permettre, vous êtes un tout
exactement.
Petit peu plus.
Malheureusement, je suis un peu trop vieux, donc moi je fais plus le support.
Mais... C'est ça. Rebonsoir Daniel.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur et président d'Oma Games, je le disais tout à l'heure. Hein, vous êtes un acteur qui compte aujourd'hui dans le jeu vidéo mobile. Est-ce que vous pouvez nous présenter Oma Games?
Bien sûr. Alors en fait, nous, on développe des technologies qui permettent à des développeurs dans le monde entier de créer des jeux beaucoup plus rapidement et surtout d'être dans le bon thème. On voit qu'en fait, le jeu vidéo, c'est fait partie prenante de la pop culture. Et donc, il faut savoir bien choisir son idée, bien choisir ses graphiques. Et nous, on leur permet de faire ça. Et ensuite, on s'occupe de toute la distribution et la monétisation du jeu.
C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de dire qu'il y a des tendances dans le jeu vidéo, des designs, de jeux qui changent, qui évoluent perpétuellement et qui deviennent très vite obsolètes aussi. Et vos utilisateurs sont sensibles à ça?
Bien sûr, aujourd'hui on le voit que les gens veulent jouer à des nouveaux jeux assez régulièrement. Il faut être dans la bonne tendance, il faut être très rapide à développer et il faut aussi avoir des moyens financiers pour donner ce qu'on appelle un peu sa chance au produit. Et grâce à notre plateforme aujourd'hui, un développeur dans le monde entier peut créer un jeu de zéro à un hit qui est joué par des millions de joueurs tous les jours sans avoir d'argent à débourser de sa poche. D'accord. Et ça, c'est une vraie nouveauté. C'est-à-dire qu'on peut être tout seul au Vietnam et littéralement avoir rien sur son compte en banque. Quand on se connecte à Oma Games, on a accès aux bonnes idées, aux bonnes tendances, à des outils qui nous permettent de développer plus rapidement et à toute la plateforme de la distribution et de la monétisation.
Et quand je disais que vous n'êtes pas un petit acteur, hein, en octobre, vous avez dépassé la barre symbolique des 500 millions de jeux téléchargés sur mobile.
Ouais, et là, ça va très vite puisqu'on est presque au milliard.
C'est-à-dire qu'en un peu plus de 6 mois,
ouais,
vous êtes passé de 500 millions à 1 milliard. Donc voilà, croissance exponentielle.
Croissance exponentielle, on a une communauté extrêmement loyale. Ouais. Déjà, sur nos développeurs, en fait, quand ils font partie de la communauté Oma Games, ils veulent rester en fait, à utiliser nos outils. Et on a la communauté de joueurs qui vraiment adorent toutes les expériences qu'on leur propose, à tel point qu'on va même aller un peu plus loin et leur permettre d'acheter en fait, les caractères qui sont dans nos jeux. En fait. Et on appelait ça le Oma Gang. Et c'est quelque chose qui est assez amusant, parce que tous nos caractères qu'on a, on les vend à des utilisateurs et ils vont pouvoir jouer à travers tous nos jeux.
On parle avec vous de hyper casual. Alors le casual, voilà, c'est des jeux qu'on va jouer quelques minutes comme ça, où on va pas se prendre la tête, qui sont très addictifs et très faciles en prise en main. Hyper casual, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors l'hyper casual, c'est une tendance dans le jeu vidéo qui sont des jeux très très simples. Nous, on n'est pas vraiment concentré sur un type de jeu. On est en fait une plateforme qui aide à développer. Là où on se concentre, c'est aller très rapidement sur le développement du jeu. Et donc, on a fait des jeux hyper casual.
Aujourd'hui, et vous avez fait du casual aussi.
Alors aujourd'hui, on fait ce qui s'appelle des puzzle games. On fait des jeux d'échecs. On a sorti un jeu de solitaire. Aujourd'hui, on a même sorti un jeu de démineur qui est le numéro 1 sur la catégorie au niveau mondial.
Le démineur?
Ouais.
Et ça alors?
Parce qu'en fait, il y a toute une façon de penser le jeu.
Jouer au démineur sous Windows, ouais, quand j'étais petit.
Et bien, on l'a remis au goût du jour.
C'est dingue.
Ouais, je vous finalement, donnerai le lien de téléchargement.
Non, mais attendez, franchement, c'est dans les plus vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Hein.
Exactement.
C'est dingue. C'est quoi les tendances en matière de jeu? Qu'est-ce qui cartonne aujourd'hui? Les casse-têtes, c'est quoi?
Alors, on se rend compte qu'il y a plusieurs tendances dans une tendance. Alors, il y a des tendances qui sont liées déjà à l'art. Donc, est-ce que ça va être du 3D, du 2D? Quelles sont les mécaniques de jeu? Donc, est-ce que ça va être un jeu où on doit assembler deux caractères similaires pour créer quelque chose? Et donc, il y a pas mal de tendances comme ça. Et donc, nous, on fait, comme on a plus de 500 studios qui sont utilisateurs de notre plateforme, on leur fait tester un peu toutes les tendances actuelles et on va voir ce qui sort. C'est un peu comme la pop culture. On ne sait pas quel sera le prochain Beatles. Et personne n'aurait pu prédire les Beatles. Nous, c'est un peu pareil. On teste beaucoup de choses. Et c'est ce qui est la force qu'on a, c'est d'avoir cette plateforme-là qui nous permet de démultiplier en fait, tous ces tests.
Alors donc tous ces jeux qui sont disponibles évidemment sur toutes les plateformes mobiles, hein, vous n'êtes pas sur console?
Non.
Est-ce que ça vous titille?
Pas pour l'instant. Encore une fois, on est vraiment dans la pop culture et pas dans les jeux un peu ce qu'on appelle niche. On veut vraiment toucher le grand nombre de personnes très rapidement. Et donc du coup, la plateforme de distribution idéale, c'est quand même le téléphone et l'App Store. Parce qu'aujourd'hui, on a par exemple plus de 1 milliard de téléchargements presque dans tous les pays du monde. Et ça, on ne peut pas le faire en console parce que déjà, ça coûte de l'argent d'acheter un jeu. Et c'est beaucoup plus dur d'accès.
Le modèle économique, c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est le freemium. On ne peut pas passer à côté.
Alors, tous nos jeux sont gratuits.
D'accord.
Nous, on fait vraiment partie.
Donc, financé par la pub ou après?
Alors, on finance par de la pub. Ça nous permet d'avoir des jeux gratuits. Et on a aussi des choses qu'on peut acheter au sein du jeu.
D'accord.
Pour soit enlever la pub, soit acheter des caractères, soit
accélérer,
acheter.
C'est ça. Voilà. D'accord.
On a tous ces modèles-là.
Alors, Daniel, j'imagine que vous êtes, en fait, votre job, c'est de sentir les nouvelles tendances. Et aujourd'hui, les nouvelles tendances, c'est quoi? C'est les NFT, c'est le Web3, c'est le métavers.
Ouais.
Vous regardez ça comment? Avec méfiance? Vous vous y intéressez parce que vous vous dites, tiens, c'est peut-être le nouvel Eldorado qui est en train de débouler? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Nous, on le voit vraiment comme une innovation technologique, mais ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire que c'est comme un peu la 5G sur le téléphone. Avant, il y avait la 4G, la 5G, c'est un peu mieux. Ce que permet la blockchain et le Web3, c'est en fait de dire, maintenant, quand j'achète un caractère dans un jeu, il n'est plus uniquement au jeu, il est à moi. C'est-à-dire que si le jeu et la société fait faillite,
bien sûr,
je l'ai encore. Et donc, nous, c'est ce qu'on va introduire dans nos jeux. Et justement, c'est ce qu'on
parle de Magam. Pour l'utiliser, pour le mettre dans un autre jeu, parce qu'autrement, ça n'a pas de sens.
Exactement. D'accord. Donc, nous, vous allez acheter un caractère sur. Donc, nous, on a créé une équipe qui est spécialement dédiée à ça pour faire en sorte qu'on puisse permettre à nos développeurs d'utiliser ces technologies. Et donc, nos joueurs vont pouvoir acheter un caractère de nos jeux et transposer ce caractère dans des autres univers. Comme on a plus de 50 jeux qui cartonnent, ils vont pouvoir jouer à tous ces 50 jeux et faire évoluer les caractères qu'ils ont achetés. Et si on réfléchit un peu, c'est assez similaire à ce qui s'est passé avec Mario. Si on pense à Mario, qui est quand même l'un des plus grandes marques de jeux vidéo, ils ont créé Mario, qu'ils ont mis dans un monde, ils l'ont mis sur un karting, ils l'ont mis dans plein d'univers, plus de 200 jeux. Et c'est ce qui fait qu'on se sent touché par Mario. C'est parce qu'on l'a vu à travers plein d'expériences.
Sauf que vous allez plus loin. Je vais pouvoir créer mon Mario et prendre ce Mario-là qui aura une casquette bleue au lieu d'une verte et je sais pas moi, pas de moustache au lieu d'une moustache, quoique un Mario sans moustache c'est pas tout à fait un Mario, excusez-moi. On va pouvoir le transposer et l'intégrer dans n'importe quel jeu, c'est ça?
Non seulement ça, mais c'est surtout qu'on donne le pouvoir à des développeurs, ce qu'on appelle des indie développeurs. C'est des équipes de 1 à 2 personnes. Par exemple, on a un caractère qu'on a lancé dans un de nos jeux qui s'appelle Skyroller. Le caractère s'appelle Valentine. C'est une femme qui fait du roller. C'est un studio d'une personne qui a créé ce jeu-là. Et aujourd'hui, ce caractère est la plus influente des caractères digitales dans le monde sur TikTok.
Donc elle a une vraie personnalité, elle a une vraie vie en fait.
Elle a 250 000 followers sur TikTok. Elle a un désengagement hallucinant. Elle a toute une vie et maintenant elle a des amis, etc. Et en fait, on se rend compte à quel point c'est puissant. Et des gens vraiment se déguisent comme elle, c'est assez puissant.
Incroyable.
Ouais.
C'est dingue ça.
Ouais.
Elle s'appelle Valentine. C'est dans quel jeu?
Skyroller.
Et qu'on peut télécharger donc, et dont vous êtes l'auteur.
Exactement.
Merci beaucoup Daniel. Daniel Nathan, cofondateur et président d'Oma Games. On n'a pas évoqué l'interactivité, mais c'est vrai qu'avec Yubo, on peut imaginer que il y a des passerelles, non, peut-être à avoir. J'imagine que l'interactivité est un sujet aussi très important dans le jeu, non? Alors peut-être pas sur le casual, quoique finalement.
Si, les gens, le jeu, c'est comme les jeux de société, on en parlait d'échanger. Et donc la plateforme de communication est très importante sur les jeux, et comme les jeux sont très importants pour les plateformes de communication.
Merci beaucoup Daniel Nathan, cofondateur et président d'Oma Games, et merci Sacha.
Merci.
Sacha Lazimi, donc cofondateur et président de Yubo. 60 millions d'utilisateurs hein, quand même pour Yubo dans le monde entier. Et bien voilà, c'est sur tous ces chiffres et ces bonnes nouvelles que se termine ce Tech & Co en ce mardi soir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, on sera là en direct à partir de 20h, vous le savez, 20h, 22h, 2h de tech chaque soir sur BFM Business. À demain et bonne soirée.